France Inter.
C'est la bande originale, salut les bienvenus sur France Inter, avec Fanny Ruet, avec Tristan Lopin,
oui.
Lisa Delmoitié, Camille Lavard, Jérémy Crédville, tout à l'heure. Tanguy Pastureau, tout le monde est là. Et vous savez pour qui tout le monde est là? Tout le monde est là pour Laurie Pestel. J'ai déjà la voix cassée comme si j'avais hurlé toute la nuit. Laurie, bonjour.
Bonjour.
C'est la première fois qu'on vous reçoit dans la bande originale.
Ouais, tellement contente.
Vous êtes la bienvenue, on est ravis de vous recevoir. Je le disais, il n'y a jamais eu autant de personnes autour de cette table.
C'est vrai. Et l'émission n'a jamais été aussi jeune.
C'est vrai, alors ça c'est vrai. Et quand on a programmé cette émission, tout le monde s'est battu pour être là pour cette émission du vendredi, alors que c'est pas forcément les jours des chroniqueurs qui sont autour de vous.
Ouais.
Ils sont
venus
beaucoup, vous, Laurie. On va parler de votre actu, Laurie, pendant cette heure et demie d'émission. Il y a plein de choses à dire. Il y a la sortie depuis fin janvier d'Hyper Laurie volume 1. Vos titres, Laurie, en duo avec plein de nouvelles pousses de la jeune génération qui vous adore et qui redonne vie avec vous à vos titres. Il y a donc plein de musique qu'on va pouvoir écouter autour de cette émission.
Avec Bro.
Ouais.
Ou encore.
J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets.
Car je resterai
ta meilleure amie.
Je serai là.
Voilà, entre autres, les titres dont on va parler. On va parler aussi de revivre votre récit chez Robert Laffont, Laurie Pestel. Et, mais tout de suite, on commence toujours l'émission par un blind test. Un blind test spécial année 2000. Hein, je me suis dit. Tant qu'à ce que ça soit la fête, c'est Noël pour eux là. Là, c'est complètement Noël. Il n'y a pas un titre des années 70.
Reste chez toi.
Voilà. On commence, vous êtes prêts? Donc, on donne son prénom et ensuite on donne l'interprète. D'accord? Pour prendre la main. Donc, Laurie.
Elle
est très
vite,
on lève pas la main, Laurie, ça ne sert à rien. Vous êtes prêts? C'est parti.
Camille.
Oui.
Tina Arena.
Non.
Tristan. Madonna.
Non.
Non. Lisa. Nelly Furtado.
Après ça part. Non.
Oui, c'est après ça part. Oh non.
Florent Pagny.
Camille. Hélène Segarra.
Ah oui, il y a trop de gens qui t'aiment.
Ah mais oui,
il y a trop de gens qui t'aiment.
Bah oui.
Mais tu ne me vois pas.
Je sens que je vais adorer ce blind test.
C'était pas elle le violon.
C'était pas elle le violon. J'ai aimé. Hélène Segarra, il y a trop de gens qui t'aiment, qui est sorti en 2000.
C'est sorti en 2000.
Deuxième titre.
Tristan.
Oui.
C'est This Is.
Putain, This Is la peste. Mais je l'avais. Hein.
Je le donne à Jérémy. C'est This Is et le titre de la chanson c'est.
Je pète les plombs.
Je pète les plombs.
On écoute.
Sorry. Le clip était rigolo.
Tout perdu.
Ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à faire. Alors
bienvenue sur France Inter.
Je pensais pas que vous alliez me faire les paroles dans l'intégralité. Mais bon, c'est This Is. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas entendu, This Is.
Alors, sur chercher.
Troisième titre.
Oh, Jérémy.
Ah oui, bien sûr.
Tristan.
Ah, oui.
Jérémy l'a eu. C'est Garou. Et c'est Seul.
Moi, je pense qu'on devrait quand même donner l'artiste et la chanson pour ce blind test.
Et l'année
2003.
Seul au fond
et le bassiste.
Seul au bout de la nuit.
Mais les chanteurs.
Deux points pour Jérémy, un point pour Camille. Quatrième titre.
Ah non. Bien sûr, Laurie. Marie Giblay.
Non.
Tony Braque.
Tristan.
Mais bien sûr,
All Good.
Yves,
donne le titre. Non, c'est pas Yves.
Tony Braque.
C'est un nom de groupe et c'est en trois mots.
Lisa. TLC.
Non.
Non.
Ah ouais.
Bon, Destiny Shine, non.
Mais bien sûr, mais c'est la honte là.
Ah, c'est en 3 To be free.
Non, je sais pas.
C'est une super musique de générique d'émission, ça d'ailleurs.
Ah oui.
Ça commence par quelle lettre?
D.
Destiny Child, mais non, c'est pas ça.
2. 3 mots.
De la rue. De la soul.
Oui, de la soul. All good. Je donne le point à Jérémy pour de la soul. C'était bien qu'on trouve pas tout de suite, comme ça on l'a un peu entendu. Vous êtes prêts? On continue. Donc 3 points pour Jérémy.
Yes.
Jérémy, écoute, pas mal.
Les années 2000.
Ouais. Vieux, hein.
Cinquième titre.
Oh, Jérémy, elle te rend dingue, 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 c'est Naughty.
Oh,
ouais, c'est
bravo.
Vrai.
Wow.
Je suis pas réveillée ce matin.
Le jour se lève encore. Quand elle a son poum poum chante.
Et son problème, c'est simplement. Après, c'est beaucoup du son de la street 2000, quoi. Moi, je m'attendais plus à des trucs plus pop.
Il y a un de zéro chanson de Crazy Frog.
C'est choquant.
Alors, attendez. Ouais. Attendez. Là, c'était Nutty, donc. Elle te rend dingue. On va se rattraper avec les deux derniers titres.
Ah, merci.
Donc, j'explique quand même le principe à Laurie. Alors, le prochain titre, vous l'avez pas, c'est pas grave. Mais le dernier titre, si vous l'avez, Super Banco, vous pouvez gagner la mise. Parce que, voilà. Donc, il faut faire un petit hold-up parce que Jérémy, 4 points. Ouais, c'est pas pour vous
beaucoup,
énerver,
là.
Mais à
c'est
mon avis,
beaucoup.
Allez, sixième titre.
DJ en 2000.
Tristan,
non mais c'est juste qui crie plus fort.
Non, je l'ai dit avant.
Alors en régie, on me dit que c'est Tristan, mais je voilà, c'est pas de ma responsabilité, c'est Anaïs, notre réalisatrice.
Voilà. Je vais me foutre en l'air, tout simplement.
Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres.
Bah voilà, là on parle de vrai challenge, quoi.
Super Banco pour ce titre, ce titre des années 2000, enfin de l'année 2000. Alors là, vraiment, vous êtes prêts?
Ah, Asia.
Elle est à toi. Elle est à toi.
Non mais attends, pardon.
C'est ça?
Sur ça, vous l'avez?
Ouais.
Elle est à toi.
Le moment où elle a eu son petit canon. Franchement, c'est cool que Laurie gagne, moi, je trouve.
Ouais, c'est clair, c'est classe.
Pas... Ouais, ok.
Tu es la foi. Chaque fois en toi,
des gens belles, c'est
exceptionnel. Quand ça, tu
et c'est une victoire de Laurie.
On n'a pas dit le gage de
toute la semaine.
Le gage, c'est de nous donner tous ces droits de sincère de 2024.
Bravo Laurie, bravo pour ce blind test. On commence en joie dans cette émission avec cette victoire sur... Ah pardon, quand même, hein. Là-dessus. Hein.
Une note.
Que, là vraiment, on fait partie des grands champions du blind test de la bande originale quand on trouve à partir d'une note. Nous, on continue de parler d'Hyper Laurie volume 1 qui est disponible depuis le 26 janvier avec Bilal Hassani notamment, avec Kalika, avec Bro, avec Adé notamment, avec Soul. Piche.
Appuie sur play, sans délai.
C'est avec Bilal.
Et le son va t'emporter. Appuie sur play, va bouger. Il ne faut pas.
Mais avant ça, quand même, Laurie, il faut que on fasse un petit tour de table. Parce que comme vous avez tellement suscité d'entrain à l'idée de venir participer à cette émission, je me suis dit que cette bande ne peut pas simplement attendre de venir faire son papier d'humour. Il faut qu'elle participe absolument.
C'est sûr.
Et je vous ai demandé à chacun d'entre vous votre titre préféré de Laurie.
Ah.
Alors, on commence par Camille.
Moi, j'ai choisi un titre un peu niche. C'est, C'est pour que tu me reviennes.
Ah ouais, ouais.
Maintenant, je vais demander à Lisa.
Mais moi, c'est ta meilleure amie. Hein. Désolée.
Ne sois pas désolée.
Elle a été reprise plein de fois. Hein.
Oui, mais pardon.
Non, c'est vrai.
Mais moi.
Je resterai ta meilleure amie. Je serai là.
Et pourquoi je fais parler la bande? Parce que je crois que tous les artistes qui travaillent avec vous sur le volume 1, Laurie, ce sont que des artistes qui ont dit dans des interviews que vous avez croisé à quel point ils vous adoraient, qu'ils adoraient votre musique. C'est
ouais,
ça
ouais, comme quoi ils étaient fans, quoi. Que c'était Laurie, c'était le premier album, le premier concert, les posters dans la chambre et tout ça.
Ouais. Moi, je l'ai souvent dit, aucun feat. J'attends le volume 2.
Il arrive.
Qui a été le premier à vous contacter? Ou la première à vous avez entendu parler de vous par un artiste que vous avez choisi?
Non, alors la première artiste que j'ai contactée, moi, c'était Adé.
C'est Adé pour Besoin d'amour?
Ouais.
C'est vrai? Pourquoi elle?
Moi, j'ai besoin d'amour.
Pourquoi elle? Bah, parce que déjà, je l'adore. J'adore avec Thérapie Taxi et puis même son album solo et tout ça. Et j'avais entendu dire qu'elle m'aimait bien, qu'elle m'écoutait quand elle était jeune.
Je crois que vous avez chanté sur scène avec elle aussi.
Exactement. Exactement. Et elle m'a contactée pour. En fait, quand je lui ai envoyé le mail. Deux secondes après, elle me répond « C'est le plus beau mail de ma vie !» Et elle me dit « En plus, ça fait une semaine que j'ose pas te contacter pour que tu viennes chanter avec moi sur scène. »
C'est quand même fou. Qu'est-ce que ça vous inspire de susciter autant d'affection, d'enthousiasme ?
je suis vieille maintenant. C'est ça que ça me dit. Oui, enfin, que bon. Tous ces jeunes artistes m'écoutaient quand ils étaient jeunes et maintenant c'est moi qui les écoute. Donc voilà, j'ai pris un petit coup de vieux.
Et entre se dire, voilà, on m'aime bien et refaire. Faire Hyper Volume 1, ouais. Et se dire je retourne en studio, accompagnée, et on retravaille toutes ces chansons, Play, Besoin d'amour, Sur un air latino, De l'or en moi, Ta meilleure amie, ça c'est pour le volume 1 parce qu'il y a un volume 2 qui va
y
venir.
Et ouais, oui.
Bravo. Retourner tout d'un coup, se dire allez, on va en studio.
Ouais.
Ça a été quoi l'impulsion vraiment ?
Ça a été, les 20 ans aussi du premier single et du premier album. J'avais toujours une ride qui apparaît quand je dis ça. Je voulais faire quelque chose, mais je savais pas quoi, en fait. Mmh. Et quand j'ai vu tous ces jeunes artistes, citer mon nom et tout, j'ai fait, waouh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire ensemble, en fait.
Parce que vous avez toujours des fans hyper nombreux qui continuent de vous écrire, qui sont toujours là, en fait.
Ouais. Hier, j'étais en séance de dédicace et c'était la folie, en fait. À chaque fois, je fais, waouh, il y a du monde quand même.
Et sachez que nous, tous les week-ends, tous les vendredis dans la bande originale, on met. Voilà. C'est notre tradition, vous êtes avec nous toutes les semaines, Laurie.
Voilà. Je suis avec vous.
On pourra dire nous, on était là.
On était là. On va parler aussi de revivre Laurie Pester tout à l'heure avec une experte. On va parler de l'endométriose parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur et c'est très très bien d'en parler et de donner le temps justement de mieux faire connaître l'endométriose. Mais tout de suite dans la bande originale, c'est Lisa Delmoitier. Oui, Lisa, pardon, j'ai tardé. Lisa, vous n'auriez pas fait Hyper Laurie volume 1 comme ça ?
J'ose pas le dire devant... Mais non, j'aurais pas fait l'album comme ça, je suis déçue.
Je suis déçue. La carotide.
Moi, depuis que j'ai 10 ans, je suis convaincue que quand Laurie vous chantait « Je resterai ta meilleure amie », mais c'est à moi que vous parlez. Mais là, vous revenez avec une nouvelle version dans laquelle vous chantez notre chanson en duo avec Piche. Donc, c'est elle, votre nouvelle meilleure amie. Maintenant, on peut avoir qu'une meilleure amie, je suis désolée. Mais qu'est-ce qu'elle a plus que moi, cette Piche ? C'est une drag queen gitane qui fait du rap. Oui, bon, ok, ça fait beaucoup de plus que moi. Bon. Moi, je fais une fixette sur Piche alors qu'il y a d'autres duos sur votre EP, mais c'est juste que je la connaissais pas, elle est incroyable. Je connais jamais aucun artiste, moi. Culture musicale,
oui,
zéro.
Oh. Ouais.
Leïla, t'es gentil de faire semblant de pas t'en prendre compte. Vraiment, il y a une semaine, je pensais encore que ZZ Top, c'était juste le nom que les Américains donnaient à leurs glands, quoi. C'est le sommet du ZZ, quoi. C'est le ZZ Top. Je vous jure, je dois écrire une chronique par. Je dois écrire une chronique. C'est beauf, mais c'est bilingue. Je dois écrire une chronique par jour, mais le moment que je redoute le plus, c'est toujours le blind test. J'en touche pas une. Leïla peut me dire, allez Lisa, un indice, ça commence par Za, ça termine par Zi. Za, Zi, Zao de Sagazi, je sais pas. Le seul moment où je marque un point, c'est quand on passe une musique de mon adolescence, hein, comme tout le monde, on l'a vu ici. C'est prouvé, hein, la majorité des chansons écoutées par un humain pendant toute sa vie sont celles qu'il a découvertes adolescent. Et moi, quand j'étais ado, qui cartonne à la radio ? Eh ben, c'est Laurie. Et on ne l'a pas eu au blind test, mais aussi qui a du caca kaki collé au cul. Ça a beaucoup moins vieilli. Voilà, j'écoute toujours Laurie, je n'écoute plus Bébé Charlie. Cela dit, on sent vraiment son influence dans mon humour. Niveau chant lexical, je vous dois beaucoup à Bébé Charlie. Mais c'est toujours ce qu'on a connu ado qui nous marque. Hein. Peu importe ta génération, t'es toujours nostalgique de ton adolescence parce que c'est l'âge des premières fois. Hein. Première cigarette, premier baiser, première fois où tu dis pas terrible le baiser après la cigarette. Ah, s'aimer, c'est donc puer de la gueule dans la même direction. C'est pour ça que les millennials comme nous tous, on est juste trop contents de votre comeback, quoi, Laurie. En plus, il paraît qu'on est la génération la plus nostalgique parce qu'on a connu que des merdes. La récession, le 11 septembre, la tectonique. On se souvient tous où on était le jour où c'est arrivé. Ça traumatise. 20 ans plus tard, je panique encore quand je vois un flic faire la circulation avec son bras un peu trop brutalement. Du calme, Lisa. Monsieur l'agent ne part pas en tectonique, il indique juste au vélo qu'ils peuvent passer. Pourquoi il y a un kilo de gel dans les cheveux alors ? Donc on est quand même sur une nostalgie intense de votre tube, Laurie. Après, je connais vos chansons, mais je dois être honnête, je pense que je suis pas la fan la plus acharnée de la table. Je pensais que je connaissais bien votre discographie. Puis hier, j'en ai parlé à Fanny Ruet. Vous voulez savoir à quel point elle vous aime ? Elle a pas de chronique aujourd'hui, ni Jérémy d'ailleurs, mais ils sont là. Voilà. Normalement, Fanny ne se déplace jamais, non. Sauf si on la paye vraiment au meilleur tarif. On l'appelle la prostituée de la blague. Pas de money, pas de gâterie. Voilà. Là, elle est là. Alors quand je l'ai vue, je lui ai demandé. J'ai dit, écoutez Laurie, toi. Elle m'a dit « Ouais, vite fait. » Dans Près de moi, Laurie dit qu'elle aime un gars, mais dans le deuxième couplet, qu'ils se sont jamais parlé. Donc soit elle se trompe, soit leur relation est toxique et il faut qu'elle s'en rende compte.
C'est vrai que c'était méga toxique.
Ok, ma puce, tu resteras à 3 mètres de Laurie. Hein, faudrait pas que ton bracelet sonne. Bon, là, vraiment, on est sur la méga fan. Fanny, elle me rappelle, tu sais, le gars au lycée qui disait « Ouais, c'est plutôt sympa, le Seigneur des Anneaux. Mais Moria, ça veut dire trou noir en elfique. Ça a donc aucun sens que les nains choisissent ce nom-là pour parler de l'entrée de Khazad-dûm. Ok, mon puceau. Tu vas lâcher ce clavier, sortir de ce forum, il est temps de se dégourdir les couilles. Hein, mon gars. Donc merci pour ce comeback réussi, Laurie. Mais après l'émission, prenez quand même pas l'ascenseur seule avec Fanny. Elle est vraiment convaincue que vous êtes sa meilleure amie.
Bravo Lisa Delmoitier, bravo Lisa. Et Lisa Delmoitier, on se retrouve tous les jeudis à la Nouvelle Scène. Alors, j'ai pas dit tout à l'heure, Laurie, c'est quand même 8 millions d'albums vendus. Ouais, ça pose quand même quelque chose, ça. Vous remplissiez facilement les Bercy, vous aviez à vos concerts des Jean-Jacques Goldman, des Johnny Hallyday, c'est une folie.
Oui, c'était la folie, ouais.
C'était une folie furieuse.
C'est pas dans l'album, là, Johnny.
Non, on travaille dessus.
On travaille sur le volume 2. Et c'est vraiment un souvenir musical, c'est-à-dire qu'il est impossible de ne pas connaître une de vos chansons, Laurie. Vous vous en rendez compte ?
Je sais pas.
Ouais, vous ne savez pas. Tout à l'heure, on faisait un tour de table. Fanny, c'est quoi ta chanson de Laurie ?
Ben moi, il y en a plusieurs. J'en ai donné plusieurs.
La première que tu veux donner ?
Je sais plus. C'était par rapport de préférence. Ouais, moi, j'aime beaucoup Entre nous deux.
Ouais.
Moi, je l'avais découverte au concert à Forêt Nationale quand j'avais 8 ans. Et j'étais là, oh mon Dieu, elle aime bien deux gars à la fois.
T'avais 8 ans.
J'avais 8
ans. Ça donne ça entre vous deux.
Ma vie, quoi.
Tristan, s'il fallait en choisir une.
Ah, moi, je pense que c'est toute seule. Parce que vraiment, il a fallu que je me résigne un jour.
Rester tout seul. C'est ça, moi, c'est triste. C'était en 2001, toute seule.
Oui. Non, mais dans la chanson de Laurie, t'as un choix.
Moi aussi.
Toute seule, il va être dans le volume 2. Cette chanson va être dans le volume 2.
Sûrement.
C'est déjà enregistré. C'est déjà fait.
Ouais, on l'a déjà enregistré avec Laurie, ouais.
Vous dites que finalement, retourner en studio, ça vous a redonné envie de faire de la musique.
Oui.
Donc de composer, de nouveaux titres, de...
Oui, des nouveaux titres, des inédits, de réécrire des petites paroles, voilà, ouais.
Donc il y a quelque chose en préparation, c'est pas si loin le dernier album, c'est sûr, mais quand même, vous avez fait tellement de choses entre-temps.
Ouais.
Ouais, qui prennent du temps, que ce soit les documentaires, la réalisation, le travail d'actrice aussi.
Un bébé,
accessoirement, voilà, ça prend un petit peu de temps tout ça. Donc ça vous a donné envie de revenir
Oui, ça m'a donné envie de revenir. Et puis c'est vrai que mon petit retour que j'avais fait là, avec le dernier album, c'était un petit retour timide et hésitant parce que ça faisait 10 ans que j'avais pas chanté et que ça s'était plutôt mal passé avec ma maison de disques. Et donc c'est vrai que pendant 10 ans, quand on me demandait « Allez, quand est-ce que tu te remets à chanter ?» Je me mettais à pleurer et je disais à tout le monde « Mais non, vous avez rien compris, plus jamais, je chanterai de ma vie et tout. » Et là, petit à petit, je reprends confiance et je reviens. Voilà.
Avec donc des choses à bientôt à annoncer, j'espère.
Exactement.
Voilà, j'espère que vous nous lâcherez une collaboration sur le volume 2 quand même. Un duo.
Je reviendrai.
On ne sait pas. En tout cas, sur cet album, il y a aussi De l'or en moi avec Kalika. Rien d'une poupée. On a parlé de Play tout à l'heure avec Bilal Hassani, qu'on a reçu aussi dans la bande originale. Appuie sur Play sans délai et le son va t'emporter. Appuie sur Play, va bouger, il ne faut pas s'arrêter. C'est vous qui choisissez avec les interprètes ou c'est la Bilal qui vous dit moi j'adore Play, j'ai envie de faire quelque chose dessus?
Je leur laisse choisir.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Oh la classe!
Ah ouais, ils choisissent le titre qu'ils veulent. Et d'ailleurs, j'étais étonnée du choix de Kalika, qui a choisi De l'or en moi, qui était un titre pas du tout connu, qui était à la base une chanson intro d'album. Et elle dit, mais moi j'adore ce titre et tout. Je fais, ok, bah go, allons-y!
Et les arrangements, justement, quelle orientation donner à ces titres qui sont revisités?
On essaye vraiment de mélanger nos deux univers. C'est-à-dire que là, avec Bilal, lui, il est très club, très électro. Avec Kalika, on est parti dans un mood plus hyper pop.
Ouais.
Avec Adé, on a gardé ce côté un peu folk. Moi j'ai besoin d'amour. Voilà. Mais un peu d'électro, mais un peu plus de guitare, un peu plus son univers folk country. Donc voilà, on essaye vraiment de mélanger nos deux univers.
Voilà pour ce premier volume 1 d'Hyper Laurie. Bientôt le volume 2 avec tous ces tubes repris, revisités. une façon de replonger aussi dans les années qu'on a adorées et puis de se dire que c'est des titres qui marchent toujours en fait, qui fonctionnent. Donc ce sont des bons titres, des titres qu'on peut continuer à retravailler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quoi, qui se passe tout simplement avec ces titres. Et le plaisir de vous avoir vraiment à ce micro, Laurie, rayonnante, souriante. Vraiment, c'est...
Rayonnant, je sais pas trop, mais...
On va continuer de parler de votre album, de tous ces titres-là, avec Jérémy, tu nous as pas dit, toi, c'est quoi ton titre préféré?
Bah, c'est Je vais vite. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre.
Parler de Tectonique tout à l'heure. Je vais vite, mais je freine. J'aurais pu aller à Villa Lassani aussi, ça.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Signé autant de tubes, Laurie, est-ce qu'on a un rapport privilégié à une chanson en particulier? C'est compliqué, nous on vous parle depuis tout à l'heure des titres qu'on adore. Et vous
Oui, bah, c'est vrai qu'elles ont... Elles ont toute une histoire. C'est des chansons que j'ai. C'est une histoire d'amour entre moi et chaque chanson. Donc c'est dur, mais c'est vrai que je dirais que mes deux préférées, ça serait Ta meilleure amie et Sur un air latino.
Sur un air latino. Ah ouais. Et pourquoi ces deux titres-là? Pourquoi qu'est-ce que ça remue chez vous et que ça évoque chez vous?
Bah Ta meilleure amie parce que c'est une chanson. Enfin voilà. En plus dans le clip c'est ma meilleure amie. C'est, voilà, c'est un titre tellement fort.
Et moi c'est un dauphin.
J'ai besoin d'amour, c'est un dauphin.
Ah mince.
Hey, oh, ouais,
t'as
rien dit. Je suis désolée.
Oh, dommage. Ouais,
dommage. Et sur un air latino,
parce que c'est une chanson qui a failli ne pas exister, en fait. Tout simplement parce qu'on était en réunion avec toute la maison de disques. L'album était sorti et on était là pour choisir tous ensemble le prochain single. Et donc tout le monde... Comment ?
Tout le monde parlait latin.
Tout le monde, voilà, c'est ça. Je comprenais rien. Non, et tout le monde disait son titre préféré pour le prochain single, avec ses arguments et tout ça. Et arrive mon tour, et moi je dis, ok, bah moi je veux un titre qui n'est pas sur l'album. Alors là, tout le monde me regarde, oh là là, qu'est-ce qu'elle a eu encore comme idée. Et je dis, non, là ça va bientôt être l'été et tout. J'ai envie d'un titre latino, j'ai envie d'un titre dansant, j'ai envie de me la péter comme Gillo. Et me regarder et tout. Et puis en fait, il y a Johnny Williams, mon producteur de l'époque, qui me regarde le seul et qui me dit, mais ouais, mais super, mais génial, mais trop bonne idée, viens, on va au studio. Et juste après, on est allé en studio, on a fait Sur un air latino. Sur un air latino.
On était en 2002 sur un air latino, vous aviez 20 ans en fait. Donc c'est aussi raconter quelque chose de réussir à s'imposer dans une réunion pour dire que le prochain single, ça sera ça. C'est pas anodin quand même.
Ouais, mais je pense que l'équipe avait bien compris que j'avais mon caractère et mes idées aussi surtout et voilà, enfin ça allait être comme ça quoi.
Ouais. Tout à l'heure j'évoquais la positive attitude, c'est quand même un titre qui politiquement a eu des répercussions quand même.
Merci Monsieur Raffarin.
C'est pas anodin non plus tout d'un coup. Il n'y a pas beaucoup de politiques qui s'emparent de chansons. Récemment, on a vu une ministre s'emparer de la grenade de Clara Luciani c'était un tour de chant en particulier. Mais là, Raffarin qui reprend la positive attitude, comment on vit ça?
Eh bien, c'était étrange. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... c'est une surprise, faut pas le dire. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été invitée pour chanter au Noël de Matignon pour les enfants.
Ouais.
Et il y avait plein d'autres artistes et tout ça. Et donc, il y avait M. Raffarin qui était dans la salle. Et là, à la fin du spectacle, il va voir tout le monde et il dit un petit mot sur chaque prestation. Et moi, il arrive et il fait « Oh là là, la positive attitude, mais quelle chanson, mais quel message et tout !» J'ai fait « Bah merci, vraiment !» Je pensais que c'était par politesse, tu vois, il dit un petit truc. Et puis, non, quelques semaines après, je reçois des textos de partout, tout le monde. « Mais t'as vu ?» Je lui dis « Non, mais non, j'ai pas vu !» Et voilà. Et
une sorte de mantra pour appeler la France.
Il se l'est tatoué dans l'aine.
Ça, je veux pas savoir. En tout cas, ça a été vraiment une chanson qui reste aussi pour cette raison-là. Ouais. Tout simplement, dans le discours politique, c'est pas rien. Hyper Laurie, volume 1, bientôt le volume 2. C'est pour quand le volume 2, on sait?
Avant les vacances.
Ah, voilà, juste avant l'été.
Voilà.
Ça serait bien, exactement. Ça, pour se la péter aussi. Avec notamment Bro. Ou encore Fiche.
J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets.
Car je resterai
ta meilleure amie.
Je serai pour toi.
Laurie est avec nous jusqu'à midi et demi sur France Inter. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Camille Lavabre.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Camille.
Enfin, Laurie, c'est pas trop tôt. Ça aurait mis 20 ans, mais on y sera arrivé. Parce que moi, je vous ai attendu. Moi, toute mon enfance, je suis allée me coucher dans mon pyjama le plus télégénique en imaginant que vous alliez débarquer dans ma chambre le lendemain matin avec les caméras de Star à domicile.
Ah ouais.
Star à domicile, tout le monde se souvient ?
Bien sûr.
Alors, pour ceux qui se souviendraient pas, le concept est vraiment dans le titre. Hein. C'est une émission qui faisait venir des célébrités chez des gens qui étaient ultra fans de cette célébrité, mais qui avaient la flemme de mettre des chaussures. Et la plupart du temps, on les cueillait au réveil. Et franchement, qui n'a jamais rêvé de rencontrer son idole en ayant la tête dans le cul. T'imagines, tu te couches bourré en revenant de soirée et le lendemain matin t'es réveillé par un journaliste, trois caméras et Faudel. Ah bah si là t'arrêtes pas les tech paf après ça, c'est que t'es vraiment très très fan de rail. Quand on y pense, Star à domicile c'était un peu le Uber Eats des célébrités. Même si Uber Eats n'a démarré qu'en 2016. Donc en France, on a quand même livré des lorries 15 ans avant des bobounes. Et après on dit qu'on n'est pas un pays d'innovation. Eh ben... Donc oui, Laurie, comme à Fanny Ruet, vous m'avez vendu du rêve, Laurie. Vous m'avez si souvent répété à quel point vous étiez une amie géniale, qui, je cite, lit en moi comme dans un livre ouvert, qui sera toujours là pour moi, toujours la même, un peu bohème. Une amie bohème, mais géniale, je suis intermittente, putain. Une amie bohème, c'est exactement ce qu'il me faut. Une amie à qui je peux proposer de partir en vacances sur un coup de tête parce qu'on est toutes les deux au chômage. Du coup, zéro contrainte de taf et pas d'heure pour l'apéro, on peut direct démarrer dans l'avion. Mais après... Je ne suis pas dupe. Je sais que vous êtes dans le cœur de millions d'autres personnes. D'ailleurs, je m'étonne chaque année que vous ne soyez pas dans le classement des personnalités préférées des Français. Je veux dire, c'est quoi le délire avec Jean-Jacques Goldman ? Le type est encore au sommet du classement, alors que la dernière fois qu'on l'a vu en public, Daniel Morin avait un peigne. Bref, les Français vous adorent et rêvent votre meilleur ami, Laurie. Tous, sauf un. Oui, car vous l'ignorez peut-être, mais vous avez un hater, Laurie.
Ah,
eh oui, tous les chroniqueurs de France Inter en ont un, alors pourquoi pas vous, après tout. Je m'explique. En fait, Laurie, je sais où vous habitez. Non, mais attends, c'est pas ce que vous croyez. Non, parce que vous pensez sans doute que j'ai brièvement subtilisé le portable d'Anne-Sophie, la programmatrice de l'émission, dont j'avais préalablement récupéré le code PIN, pour aller ensuite dans l'historique des courses Uber qu'elle envoie aux invités et regarder les adresses de départ des derniers trajets effectués, que j'aurais ensuite recoupé avec votre heure d'arrivée exacte au studio. Mais n'importe quoi! La programmatrice de l'émission s'appelle Vanina. Non. Mais sérieusement, je vous explique. En fait, vous êtes la voisine de Marie. Marie, c'est ma meilleure amie provisoire. Oui, parce que du coup, en attendant de vous rencontrer, j'ai quand même développé une relation amicale avec une autre. Hein, mais je vous rassure, si je l'ai qualifiée de meilleure amie jusqu'à ce matin, je suis maintenant très heureuse de l'appeler un contact. De toute façon, elle n'a jamais été assez bohème pour moi. Marie, si tu nous écoutes, sache que tu resteras à jamais dans mon répertoire. Bref, et Marie m'a raconté qu'elle vous avait croisé il y a quelques semaines dans le hall de l'immeuble avec son chien.
Attends.
Et que son chien vous a agressé.
Oui.
Et pourquoi ? Parce que c'est un hater. Voilà, c'est un petit être jaloux et aigri qui depuis toujours entend que le chien est le meilleur ami de l'homme et découvre qu'en fait non, c'est Laurie, la meilleure amie. Alors vous voyez, comme quoi on peut être la personne la plus gentille, bien intentionnée et empathique du monde, et ben on aura toujours des haters. Mais laissons-les sur le bord de la route, Laurie. Et plutôt que de prêter attention aux rageux, partons toutes les deux vivre notre idylle amicale loin du tumulte de ce bas monde. Parce que vous et moi, on a besoin d'amour, des bisous, des câlins, on en veut tous les jours. C'est comme ça.
Oui. Bravo Camille! Camille, on te retrouve sur scène le 26 avril à La Rochelle. C'est vrai cette histoire de chien?
Mais oui, c'est il y a deux semaines en plus, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Je revenais de mon footing, j'étais sur mon téléphone et j'avais la musique à fond dans les oreilles et je vois pas et d'un coup j'entends. Et là je regarde devant moi et je vois un chien qui est cacazac et je me dis oh là là, je vais me faire bouffer, je
m'en dis pas plus, je le fais piquer.
Et j'ai un peu flippé quand même.
C'est un peu flippant aussi l'histoire de Camille, c'est pas bon, vous êtes observée de partout. On va s'intéresser, Laurie, maintenant aux musiques que vous écoutiez dans votre vie, dans votre bande originale. On vous a demandé de travailler un petit peu pour préparer l'émission. On commence en 88, vous écoutiez. Vanessa Paradis.
Bah oui.
Forcément.
Ouais.
Avec quoi déjà une envie d'être Vanessa Paradis de...
Pas du tout. Moi, je voulais être patineuse.
Vous avez...
Mais je l'aimais bien.
Ouais.
Et puis, elle était jeune. Ouais. C'est ça. Je m'étais un petit peu...
Identifiée,
mais sans vouloir être chanteuse. Mais je trouvais qu'une jeune chanteuse, c'était cool. Quoi.
Ouais. Vous faites beaucoup de patinage artistique. En sport-études, à un rythme très important quand même.
Bah oui, moi pour moi, mon rêve c'était de devenir championne olympique.
Ouais.
Voilà.
Ça
a duré quelques années quand même, cet entraînement et ce oui. cursus.
Oui, j'en ai fait 10 ans.
Ouais.
Et j'ai eu une fracture du ménisque à 2 mois des championnats de France.
Bon. Alors, ouais. Alors
premier drame de ma vie.
Ouais. Et comment on le surmonte, comment on le traverse?
Alors, au début, j'étais vraiment mal. Je sortais plus de chez moi. J'étais complètement perdue. Puis, j'ai des parents super.
Ouais.
qui s'en sont rendus compte. Et on a eu une petite discussion à la maison. Et ils ont trouvé les bons mots, en fait. Ils m'ont dit, écoute, regarde, il y a plein d'autres choses dans la vie et tout. Et moi, j'étais là, j'étais bornée. C'est le patin. Il dit, ok. Quelle est la première chose qu'on t'apprend au patinage? Bien tomber, pour pas se faire mal.
Oui.
Ok, et la deuxième, à se relever. Mmh. Relève-toi, quoi. Mmh. Relève-toi et continue ta vie et tu verras qu'il y a plein de belles choses. Ok, le patin, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas là
c'est pas le chemin.
Ta direction et ton destin, mais tu verras qu'il y a plein d'autres choses jolies dans la vie. Et j'ai dit, ok, d'accord. Et ils m'ont dit, mais écoute, parce que j'étais un peu hyperactive, donc il fallait que je fasse quelque chose. Réfléchis à ce que tu as envie de faire et que ce soit un autre sport ou une autre activité.
C'était possible de faire un autre sport ou de reprendre. mais reprendre le patinage, pas du tout, parce que vous vouliez faire ça à haut niveau.
Oui, c'est ça.
C'était pas un loisir, quoi.
J'aurais pu continuer, j'aurais pu donner des cours, j'aurais pu être, je sais pas, fait clochette à Walden Nice. mais c'était pas, je voulais pas ça. Moi, je voulais vraiment être là ou rien. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que j'aime dans ce sport, en fait? Et je me suis rendu compte que j'aimais faire mon show, donner de la magie aux gens avec des petites tenues à paillettes sur des musiques. Et parfois, sur piste, j'étais là, ouah, 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 ouah. Et ma prof qui fait, le triple salco, il est où? Oui, ok, j'y vais. Donc, voilà, je me suis dit, ok, je peux plus faire ça avec des patins, je vais le faire sans patins.
La scène, tout simplement. Voilà, on arrive en 97. I know you're still living your life after death.
Ça aurait pu être le blind test de tout à l'heure.
C'est vrai,
ça
aurait pu.
C'est vrai qu'on y pense trop peu, mais vous êtes une des seules personnes à ne pas avoir grandi en écoutant Laurie.
Ouais. Bah oui.
Quelle enfance nulle.
Je me suis un peu, auto-censurée.
Et en 97, il y a aussi ça.
Exactement.
Écoute ton cœur, c'est la première chanson que vous chantez à la télé.
Oui, machine.
On va parler de Charlie et Lulu quand même, on a grandi quand même, beaucoup d'entre nous, en regardant Nagui et Charlie et Lulu, on va se dire ça très honnêtement. Écoute ton cœur, hyper, il y a du groove là-dedans, c'est très limité à R&B en fait. Vous chantez ça à la télé, à 15 ans.
Ouais.
Aucune appréhension?
Si. J'étais morte de trouille, j'étais comme ça.
Comment vous vous retrouvez là?
Comment je me retrouve là? Parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir un papa qui travaille dans une autre radio.
On peut le dire, c'est RTL.
Ok, je savais pas.
Oh, si.
Et donc, quand j'avais des bonnes notes, j'avais le droit de venir à des émissions en public où il y avait des chanteurs et tout ça. Et puis, il y avait Charlie Lulu qui était aussi sur RTL et M6. Et donc, j'ai pu participer à cette émission, mais dans... ils avaient une rubrique, c'était Génération Hit.
D'accord.
Donc c'était des jeunes artistes qui n'étaient pas du tout connus, qui n'avaient jamais fait de scène, rien du tout, qui avaient juste une chanson. Et c'était vraiment pour découvrir des jeunes artistes.
Et qui a écrit cette chanson?
Avant le top 10.
Alors j'ai écrit les deux premières phrases du refrain. C'était un bon début. Ouais. Et puis après, ça a été des auteurs, compositeurs à qui j'ai...
Mais
j'ai
vous savez chanter déjà à 15 ans en fait? C'est pas juste.
C'est pas la folie non plus, hein.
Oui,
j'ai fait des progrès depuis.
Non, mais c'est une chose de passer les mercredis après-midi quand on a de bonnes notes à observer des chanteurs, mais poser sa voix, enregistrer, mixer quelque chose, se retrouver à la télévision, avec tout un spectacle derrière. Il y avait cette dimension spectacle déjà.
Oui, il y avait déjà deux danseuses, derrière.
C'était important de montrer que c'était aussi une sorte de production de.
Ouais,
un spectacle.
Ça a toujours été mon envie, en tout cas, de faire du show.
Comme avec le patinage artistique.
Ouais.
En fait.
On retrouve
cette plus-value qui va être hyper importante dans la suite de votre carrière d'ailleurs. On passe à l'année 2001, vous écoutiez.
On a tous les styles, t'as vu?
Comme dans l'album.
Ouais, exactement.
Et à cette époque-là, la France a découvert...
C'est un grand rire quand tu n'es pas là. Je crois qu'il y a
sirène en arrière-plan là. Vous l'entendez ? C'est la sortie de votre premier album. L'album c'est Près de toi, ce tube là c'est Près de moi.
Ah oui, il y a un problème du coup.
Il y a un DVD qui s'était sorti, c'était Près de vous.
Près de vous.
Exactement.
Vous avez, la tournée
vous
avez
tout décliné en fait.
L'amour est dans le pré, c'est vous ?
Non, non, c'est pas moi.
C'est Johnny Williams, votre premier producteur en fait, qui a eu envie de faire de vous, il dit dans une interview, enfin vous le racontez, une sorte de Britney à la française.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
En disant, voilà, il y a une place pour
ça place
dans le paysage français.
Il y a une place à prendre.
Et... Quoi, non, mais d'ailleurs, je sais pas si c'est une rêve voulue,
oui,
mais le clip de Près de moi, il fait vraiment penser au clip de Sometimes de Britney, où elle est sur les quais aussi, sur des planches en train de danser.
Alors, si vous nous rejoignez sur France Inter, nous sommes ici.
Avec un spécialiste.
Lors d'un congrès, ouais, un congrès de spécialistes de Laurie. Et on en est à parler des clips.
Des plans. Elle a déjà eu un dauphin.
Non.
Oui, je pense qu'elle a eu un orque.
Et ce titre, Près de moi, qui est un carton, initialement, les maisons de disques n'en veulent pas.
Non.
C'est fou.
Non.
Quand on y repense.
Elles étaient un peu indécises, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Hein, mais
ça met du temps.
Ça met du temps, mais c'est vrai, j'arrivais avec un titre, j'avais jamais rien fait. Donc, la petite Laurie qui a jamais rien fait, c'était pas oui, c'était pas non. Et moi, je suis quand même. Il faut que ça bouge, quoi. Donc, il faut que ça avance. Donc, avec Johnny, on a eu l'idée de mettre le titre sur une plateforme.
Et là, c'est là où c'est génial, parce que c'est la période Internet, en fait.
Ça commence tout juste. Donc, en deux mois. Ouais, c'est ça. En fait, il fallait que ça télécharge pendant deux heures. Et en deux mois, on a eu 15 000 écoutes. Là, aujourd'hui, on en rigole parce qu'on fait ça en 30 secondes. Mais, mais à l'époque, c'était énorme parce que tout le monde n'avait pas d'ordinateur chez soi.
Bien sûr. Et tout d'un coup, 15 000 connexions. Vous êtes soutenu par M6 aussi. Ouais. Et progressivement, votre single se classe quasiment en tête des ventes. Deuxième des meilleures ventes en France. Quand ça commence à prendre, on se dit il se passe quelque chose qui va nous dépasser. À ce moment-là, vos parents ou vous vous rendez compte de quelque chose ou pas du tout ?
Non, je m'en rends pas vraiment compte parce que j'ai vraiment la tête dans le guidon. Je suis en studio, je répète les chorés, on fait des séances photos, on enregistre, on tourne les clips et tout. Et j'ai pas envie en fait de m'en rendre compte. J'ai envie de vivre pleinement le truc et d'aller à fond jusqu'au bout, quoi.
Parce que ce premier album va dépasser le million d'exemplaires en fait, plus d'un million de ventes. Il y a en effet Je serai ta meilleure amie aussi sur cet album. Il y a un nombre de tubes complètement fou. Vous arrêtez, l'école, comment ça se passe à ce moment-là ?
Ah, alors en fait, j'ai rencontré Johnny juste après avoir passé le bac. Mm-hmm. En fait, l'année 2000, ça a été l'année tournante de ma vie. Il faut savoir que
le bug d'Internet.
Ouais, c'est ça, c'est moi. Le chiffre 2, mon chiffre porte bonheur. Donc je savais que cette année, il allait se passer quelque chose. Enfin, je me doutais, mais je pensais pas que ça allait être autant. Donc j'ai eu 18 ans en mai, mon bac en juin, mon permis en août.
Ah oui.
Important le permis.
Bien sûr.
Je rencontre Johnny fin août. Et on signe chez Sony fin novembre.
Belle année.
Voilà. Et avec mes parents, on s'était mis d'accord en disant, ok, mes parents avaient dit, ok, si tu passes ton bac, pendant un an, je fais des cours au CNED, à distance, et je leur avais dit, je vais essayer d'être chanteuse, mais pour ça, il faut que je sois à dispo, faut pas que j'aille en cours et tout, donc vous inquiétez pas, je vais faire au CNED, parce que j'avais plein de potes patineurs qui faisaient avec le CNED aussi. Et donc j'ai fait un BTS de communication des entreprises. J'ai eu ma première année, tout le monde m'avait dit, ouais, tu verras, c'est trop dur et tout, machin, de travailler à la maison. J'ai eu ma première année, j'étais très fière, et ensuite, on a commencé les tournées,
ça a commencé,
et les concerts, et là, rentrer à minuit et réviser ta stratégie marketing.
C'est dur de se dire
déjà rentrer à 16h et réviser.
Comment ?
C'est dur de se dire je vais faire autre chose après.
Ouais, c'est ça. Après, plus, quand ça commence à fonctionner, mais
ça
bon.
Paraît fade, hein.
Et vos parents, toujours, et puis même vos parents commencent à s'occuper aussi de vous, parce que ça devient une vraie machine, en fait. Tout d'un coup, quand on commence à dépasser le million d'exemplaires, qu'il y a autant de dates de tournée, votre père s'occupe de la gestion, et manager.
Manager, je lui ai demandé d'être manager, d'être tout le temps avec moi.
Et ça permet aussi de quoi? De garder les pieds sur terre,
De garder les pieds sur terre. Mais grâce à ça, j'ai vraiment eu ma famille et mes amis qui m'ont toujours dit la vérité. Donc quand j'étais bien à une émission, ok, mais là, t'étais nulle, t'étais pourrie sur scène, là, vas-y, prends chez toi, va dormir. Mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui nous disent la vérité autour de nous. Quoi.
On passe à l'année 2002, vous écoutiez.
Un choc. Next.
Shakira envahissait le monde avec Whenever, Whenever. Et à cette époque-là, Laurie, il y avait sur un air latino.
Ouais.
Il y avait aussi.
Moi j'ai besoin d'amour.
Tout le monde chante. Et il y avait aussi.
Eh oui, bien sûr.
J'ai une anecdote.
Alors attends. Je t'en prie, Fanny, vas-y.
Quand elle est sortie, je l'aimais trop. Et moi, vu que j'adorais l'école, parce que je suis ce genre de personne, j'avais réécrit toute la chanson, mais en l'appelant à l'école. Et je parlais du fait que j'adorais aller en cours. Voilà. Wow. Donc c'était ma chanson. Alors non, je ne me rappelle pas, mais vraiment, tous les après-midi, je rentrais de l'école et je bossais ma chanson, quoi.
T'es sérieux,
voilà. À l'école.
C'est votre deuxième album à cette époque-là, à l'école, donc à 20 ans. C'est pour le volume 3, je pense qu'on pourrait faire.
C'est ça.
Voilà. Il y a un featuring possible avec Fanny. Cet album Tendrement s'écoule à 800 000 exemplaires avec les tubes dont je viens de parler. Il y a le Laurie Live Tour. Chant, danse, ça c'est important. À chaque fois, vos performances à la télé étaient aussi des performances remarquées parce que il y avait visuellement, tout était là, quoi. C'était pas simplement une chanteuse devant le micro.
J'avais vraiment cette envie de show, cette envie de.
Un peu à l'américaine.
De performer. Ouais, exactement. Il y en avait pas à ce moment-là en France et c'était mon truc, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait mon premier rendez-vous avec Gilbert Coulier, qui est devenu mon producteur de spectacle. Tout de suite, je lui ai dit, voilà, moi j'ai plein d'idées, je veux que ça, je veux de la pyrotechnie, je veux tatatata. Ouais. J'ai dit, c'est ça ou sinon je fais pas de concert.
C'était la condition.
La condition, ouais.
C'était qui à l'époque, dans le paysage musical mondial, hein, qui faisait cet effet-là en termes de spectacles sur scène?
Bah, il y avait Britney, qui commençait, ça faisait un ou deux ans qu'elle était là. Il y avait Janet.
Ouais. C'est vrai,
Michael aussi, qui faisait des gros shows. Beyoncé.
Et aujourd'hui, c'est devenu la norme. J'ai l'impression que ce n'est plus envisageable d'être une grande star sans avoir tout un dispositif autour de soi.
Donc, il y a un peu de feu.
Ouais.
Il faut du feu,
Il faut du feu, de la pyrotechnie.
Et la pyrotechnie, ça fait
la pyro, si tu sais.
C'est vrai.
Mais quand est-ce qu'elle chante? Mais regarde.
Elle vole, elle chante plus.
On passe à l'année 2008.
Katy
Perry, I Kiss a Girl. Et ce sont vos débuts en tant que comédienne?
Ouais.
En 2008, on vous retrouve dans De Feu et De Glace. Il y a encore du feu d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Toujours dans un coin.
Le patin, le feu, la glace.
C'est vos premiers pas vraiment devant une caméra en tant que comédienne. C'est pas un passage qui doit être simple à. Dans son esprit, on se dit qu'on doit être attendu.
Et qu'on va être critiqué.
Oui.
Parce qu'on est la chanteuse qui va faire de la comédie. Ouais. Et qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases.
Et c'est douloureux ou pas?
Non, parce qu'en fait, c'est moi
qui suis allée. J'ai l'impression que rien n'est douloureux pour vous, en fait.
Non, prendre la vie.
Ouais, c'est ça que je fais.
Non, en fait, c'est moi qui suis allée les voir. J'avais très envie de jouer, parce qu'à force de tourner des clips, de faire des voix pour Disney et tout ça, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et comme je suis pas du genre à attendre que ça arrive, parce que parfois ça n'arrive pas et qu'on peut attendre très longtemps à côté de son téléphone, j'avais écrit une sorte de petit synopsis et je suis allée taper aux portes de TF1 en disant voilà, j'ai un super projet, on va le tourner et on va en faire une fiction. Ils ont lu, ils m'ont dit écoute, ton projet, je pense ça coûterait trop cher pour faire de la fiction. Je pense que c'était une façon très polie de me dire écoute, ce que t'as écrit c'est un peu de la merde, mais si t'as envie de jouer, on va te présenter une production, on va écrire quelque chose pour toi.
Super.
Et vous
avez fait le premier pas. Vous allez jouer ensuite avec Alain Delon en 2010 dans Un mari de trop, où il y aura 7 millions de téléspectateurs au rendez-vous sur TF1. C'est pas rien. Vous allez passer par le théâtre aussi. Ça, c'est une expérience aussi qui est très importante, qui vous rappelle tout d'un coup ce public et la scène directement. Et puis vous allez aussi écrire Les choses de ma vie, où vous commencez à parler de votre combat contre l'endométriose, entre autres. C'est le cas aussi dans Revivre, ce récit qui est publié chez Robert Laffont, qui vient d'être réédité. Preuve que c'est un sujet qui parle et dont il faut parler. Et justement, on a convié à ce micro aujourd'hui le docteur Delphine Luillerie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes algologue, médecin de la douleur, spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose. Vous avez cofondé le réseau Resendo, un réseau de professionnels de santé pour lutter contre l'endométriose. Et vous avez écrit avec Éric Petit et Éric Sauvanet tout sur l'endométriose, soulager la douleur, soigner la maladie aux éditions Odile Jacob. Merci d'être là. C'est quoi l'endométriose? On en parle de plus en plus. Et si on ne s'y intéresse pas sincèrement, c'est difficile de savoir ce que c'est.
Alors, c'est une maladie gynécologique, féminine, parce qu'elle est en lien avec les hormones. Et si on regarde, et si j'ai une image à donner, en fait, l'utérus, hein, qui serait la chambre d'un futur bébé, ben, y a un papier peint, c'est l'endomètre. Et quand il n'y a pas de bébé, ben, cet endomètre, ce papier peint, va se décoller de la chambre et s'éliminer sous la forme de règles. Et dans la maladie, en fait, il y a comme une discontractilité, donc des contractions au niveau de l'utérus qui sont anarchiques. Donc, qui vont dans tous les sens et qui vont, au lieu de complètement faire éliminer ce papier peint, refluer au travers des trompes et aller se déposer à droite à gauche dans notre organisme sous la forme de lésions d'endométriose.
Donc, c'est douloureux.
Donc, c'est douloureux parce que ces lésions vont notamment, par leur effet en fait inflammatoire, même si c'est du bas bruit inflammatoire, abîmer des terminaisons nerveuses, entraîner des pertes de mobilité de nos tissus élastiques, musculaires, tendineux, ligamentaires. Et quand ça bouge pas, ben ça fait des crampes. Et quand ça fait des crampes, ça coince aussi les nerfs. Bref, on a des cercles vicieux qui s'amènent à peu près partout. Le tout remontant vers notre cerveau, qui lui va moduler. Donc là, un des premiers messages, c'est pas dans la tête. C'est le premier message.
C'est le premier
ça
message.
N'est jamais dans la tête.
Parce qu'on a toujours tendance à considérer que la femme a des douleurs imaginaires, que l'utérus c'est de l'hystérie, encore une fois, et que c'est pas bien fondé tout ça.
Alors l'utérus, ça vient en effet d'hystéria en grec, qui veut dire utérus. C'est Hippocrate le premier qui a décrit les premières descriptions d'hystérie, mais il le pensait pas sous une forme dévalorisante vis-à-vis de la femme. Une des grandes problématiques, mais c'est d'ailleurs sans doute une des raisons pour lesquelles il y a un retard de diagnostic, c'est que le premier symptôme en endométriose, c'est la douleur. C'est 70 à 90%.
Mais ça, c'est des douleurs que beaucoup de femmes ont quand les règles arrivent. On peut avoir des douleurs.
On est complètement d'accord.
Voilà, donc c'est difficile de se dire si c'est de l'endométriose ou pas.
Ah, ça, on est d'accord. Ouais. Et puis, quand bien même il y en a ou il n'y en a pas, l'objectif, c'est de prendre en charge finalement cette douleur. Qu'on est dans un domaine où les douleurs sont, dans un premier temps, en tous les cas, liés à quelque chose de naturel, les règles. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, déjà, on a un lien entre si c'est naturel, c'est normal, si c'est normal, on s'en occupe un peu moins. Oui. Et puis, là-dessus...
C'est une douleur qu'on doit accepter, quoi.
C'est une douleur qu'on doit accepter, elle est naturelle. Là-dessus s'insère, en fait, l'image au très profond, et ça, c'est dans l'inconscient collectif, de la douleur féminine. Dans l'inconscient collectif, la femme, quand elle a mal, c'est le douleur de la fragile, donc peut-être de l'exagération, alors que la douleur masculine, elle est incontestablement en lien avec l'héroïsme. Et, ça reste
dingue,
au travers de nos cultures. C'est sans doute ça qu'il faut combattre. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que le point de départ physiologique, biologique, c'est nous ne sommes pas égaux avec les hommes. Nos hormones font que les douleurs, c'est-à-dire deux stimulations équivalentes, vont être perçues comme plus importantes chez la femme, pas parce qu'on est des chochottes, mais parce que hormonalement, notre système qui conduit l'information douloureuse va être augmenté. C'est comme ça. Maintenant, c'est l'échelle de valeur que l'on met dans la considération que l'on a d'une patiente ou d'un patient qui est douloureux.
Parce que je lisais, dans les symptômes, dans les douleurs, ça peut aller jusqu'à de la perte de connaissance quand même. Enfin, c'est pas juste j'ai mal au ventre. Laurie, ça se matérialisait comment pour vous?
C'est ça, en fait. C'était, j'avais tellement mal et j'essayais de passer outre, de vivre normalement. Je prenais des antidouleurs, ça ne faisait rien du tout. Donc mon corps disait stop et je tombais dans les pommes. Pour vous, la petite anecdote, c'était pour vous dire un peu le
ratio.
Le ratio. Quand j'ai accouché, les contractions, y avait les sages-femmes qui venaient me voir et qui allaient voir sur le monito, qui voyaient la courbe vraiment monter. Elles faisaient, oh là là, mais vous avez des fortes contractions, mais vous voulez pas quelque chose pour, Et là, je fais, ah, c'est ça Oh là là, pouf, vous inquiétez pas, tout va bien.
Ouais.
Et vraiment, les douleurs de contraction pour les femmes qui ont accouché, pour moi, c'était rien. Et pour plein de femmes avec qui je parle, qui ont d'endométriose, elles me disent, mais nous, moi aussi, ça m'a rien fait.
Rien senti. Ouais. Ça concerne beaucoup de femmes. Docteur.
Alors, les chiffres actuels officiels, c'est de dire que c'est 10% de la population féminine. Mais les chiffres sont très aléatoires. Très certainement qu'il y en a beaucoup plus que ça. Beaucoup de femmes aussi ne sont pas forcément gênées et des douleurs peuvent apparaître même bien plus tard, hein, pour des raisons diverses et variées. Hein. Donc souvent, ça commence quand même au moment des règles, puisque c'est, la maladie évolue par ces règles, donc c'est souvent au moment de l'adolescence, ce qui est une réelle problématique parce que plus tôt on prend en charge en fait, ces douleurs, moins le corps se sensibilise et moins il a une tendance à augmenter physiologiquement, là encore, tout le process de la douleur, tant sur un plan corporel que sur un plan de notre cerveau.
Et comment on prend en charge ça ?
Alors, souvent, c'est une des difficultés aussi, c'est que notre apprentissage médical est sans doute à remettre en cause. Nous voyons, nous, les médecins, les patients par rapport à leurs organes. Là, la grande difficulté, c'est que ça concerne la gynéco au départ, mais que le fait de la douleur, elle, va s'étendre d'organe à organe. Et là, ça paume le commun des médecins. Que notre apprentissage pour ces douleurs-là, c'est qu'on a appris au gynéco deux solutions, la pilule ou la chirurgie. Ce qui est quand même relativement restreint.
La pilule, pour préciser, quand on prend la pilule en continu...
En continu.
Le but est de couper les règles.
Voilà, de couper les règles.
Parce que c'est en fait... un antalgique.
Non, ben non. Ben non.
Donc sinon, on le saurait. Hein, on le mettrait dans les fractures, dans les tendinites, dans tout ce qu'on veut. Donc, à partir de là...
Ça empêche les règles, donc ça empêche un maximum de douleurs. Et il y a l'opération. Quelle opération ?
Alors, je ferai une toute petite précision, parce que je sais que Laurie a été opérée et que ça a été, pour elle, quelque chose de tout à fait salvateur. Mais entre... la pilule, ne pas trouver un antalgique et la chirurgie, il y a peut-être aussi un monde qui n'est pas toujours connu, qui est celui du monde de la douleur, parce que le mécanisme qui est, ce sont ces douleurs névralgiques, en fait, comme des sciatiques, si vous voulez, ne sont pas sensibles aux antalgiques classiques. Donc ça ne sert à rien de mettre de la morphine, ça ne sert à rien de mettre des anti-inflammatoires, le problème n'est pas inflammatoire. Et donc ce sont des traitements qui ne sont pas connus toujours par les gynécos, par les médecins généralistes, qui sont plutôt à base d'antiépileptiques, de certains antidépresseurs qui ne sont pas antidépresseurs, je précise, c'est une question pharmacologique, et qui viennent cicatriser ces terminaisons nerveuses, et derrière on doit remobiliser ce corps. Donc, après, la chirurgie,
elles sont
diverses.
Parce que, pardon, je vous interromps. Laurie, vous avez subi une chirurgie.
Oui, plusieurs d'ailleurs.
Plusieurs. Et pour maintenant ne plus souffrir, mais c'est aussi un prix fort quand même.
Un prix fort, oui, oui.
Bah, ça veut dire que...
Alors, ma première opération, c'était vraiment pour enlever toutes ces lésions qui commençaient à grignoter d'autres organes. Et la deuxième, ça a été une hystérectomie. Parce qu'en plus d'endométriose, j'avais de l'adénomyose, où là, les lésions, les nodules sont dans l'utérus. Donc là, le seul moyen pour moi, en tout cas pour mes douleurs,
c'était
de retirer l'utérus.
Donc, voilà. C'est accepter de ne plus faire de bébé.
Oui, ça a été un choix.
C'est aussi de faire ce choix-là.
Mais avant l'hystérectomie, j'ai essayé plein de choses.
Bien sûr.
J'ai essayé les TENS, j'ai essayé l'ostéo, j'ai essayé l'acupuncture.
L'hypnose.
Oui, tout.
Ouais, ouais.
Mais ça ne marchait pas.
Est-ce qu'avant d'en arriver à cette opération, quand on souffre d'endométriose, est-ce qu'il est difficile de... On parle de fertilité, on parle de grossesse. C'est plus difficile d'avoir un enfant dans ces circonstances ?
Oui, on considère que, en gros, 40% des femmes qui sont touchées par l'endométriose auront des difficultés à avoir un enfant. Je dirais qu'il y a d'autres éléments qui peuvent aussi entraver la facilité d'avoir des enfants. Il y a l'âge.
Oui.
Quand on désire avoir une grossesse à 40 ans, c'est plus compliqué qu'à 25, quoi qu'il advienne. Donc l'endométriose se surajoute aussi potentiellement à cet élément-là. Donc voilà, donc la fertilité, alors c'est vrai que c'est le premier symptôme qui nous amène au diagnostic, même si paradoxalement c'est la douleur qui est la première, je dirais le premier symptôme que l'on a dans le cadre de l'endométriose.
Est-ce qu'on peut facilement soigner l'endométriose quand soi-même on n'est pas concerné par l'endométriose ?
Alors moi j'ai toujours pensé que notre profession de médecin, je pense que on la réalise sans doute mieux quand on a une certaine objectivité et quand on n'est pas en lien avec soi-même vis-à-vis de l'autre.
Je comprends.
Donc, à partir de ce moment-là, j'ose espérer que j'arrive en effet à prendre en charge le plus correctement possible toutes mes patients.
En tout cas, on retient que les pathologies qui ne sont pas mortelles sont peu étudiées, donc on n'a pas beaucoup de remèdes pour ça, et que la douleur féminine est toujours un peu moins bien prise en compte que la douleur masculine. En gros, c'est pas mal ça. Merci beaucoup Delphine Lullery d'être venue à ce micro.
Merci de m'avoir invitée.
Merci aussi à Laurie Pester pour ce témoignage. Endométriose, adénomyose, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, c'est aux éditions Robert Laffont. Revivre ce très beau récit de Laurie qu'on vous recommande aussi, si vous êtes concerné ou si vous n'êtes pas concerné d'ailleurs. Il y a Tanguy Pastureau qui nous a rejoint. Bonjour.
Absolument.
Tanguy.
Bonjour.
Ça va? On va parler de quoi tout à l'heure?
Eh ben, je vais vous parler des citoyens souverains. C'est une mouvance de gens qui pensent que les États ont été privatisés et qui, quand ils sont arrêtés par la police, crient on ne contracte pas. Vous avez peut-être vu ça sur Internet récemment.
On a vu ça. Restez avec nous sur France Inter jusqu'à midi et demi avec Laurie Pester. Pastureau, tout ce beau monde réuni pour l'unique Laurie Pester. Ouais. Laurie qui est avec nous dans la bande originale. Laurie, on en parlait du phénomène que vous avez été, plus de 8 millions d'exemplaires, des tournées incroyables, des télés, une omniprésence quasiment dans ces années 2000. À partir du moment où vous avez sorti votre premier album, ça a été un phénomène qui a été assez incroyable. Et vous êtes là à nouveau de retour pour célébrer ces titres-là, et ça c'est important, avec des collaborations avec des artistes de la plus jeune scène, parce que c'est compliqué parce que vous êtes toute jeune aussi quand même, Laurie. Dites ça parce
j'ai
que sinon
j'ai mis 10 ans de l'anti-cerne,
c'est
pour
ça. C'est ça, c'est le petit secret. Avec des artistes qu'on aime comme Bilal Hassani.
Appuie s'il vous plaît, sans délai, et le son va t'emporter. Appuie s'il vous plaît, va bouger, il ne faut pas s'arrêter. J'oublie le monde autour, juste 5 minutes. Le temps d'écouter une love song. À la fin de l'histoire, j'évite la chute.
Il y a une chanson avec Adé aussi, de Thérapie Taxi, qui a pris son chemin maintenant en solo pour avec un grand succès. C'est Besoin d'amour. C'est besoin.
Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Et je suis comme ça quand j'ai besoin.
Sur cette Hyper Laurie volume 1 qui est déjà disponible en magasin, il y a aussi
en
Biche.
Magasin.
Je dis en magasin, c'est un peu. Mais
elle
parce qu'en fait, on peut
dans
acheter
les bacs,
ça en.
Dans
les bacs, ça fait vieux, non? Dans les bacs. En magasin, non, c'est pas mieux.
Sur les plateformes.
Est-ce que ça s'achète beaucoup encore, les CD?
Je sais pas, on l'a pas sorti en physique.
C'est ça, pour ça.
Vinyle.
Non, là, c'est que digital pour l'instant.
Il y aura bientôt un physique, quand même, ou pas?
Oui, je pense qu'avec volume 1, volume 2 et des petits bonus.
Nouveau coffret peut-être. Dans la bibliothèque.
Un nouveau coffret. C'est vrai, t'as gardé
avec
les
week-end tours. En DVD. Eh oui.
Oh là
avec
là,
le poster
là.
Et la montre. Eh oui.
Ah, la montre.
C'est vrai
la
que vous avez été dans la chambre de tellement d'ados. Ouais.
Ah non, ne dis pas cette phrase.
Si, en poster. Il y a aussi Je serai ta meilleure amie avec Piche.
J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets.
Car je resterai
ta meilleure amie.
Je serai là toujours pour.
On doit faire partie des chansons les plus reprises. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qu'on trouve en ligne et qui ont pu reprendre vos chansons, vos titres. Je tombe souvent sur des chanteurs comme ça, amateurs, qui reprennent des chansons à la guitare, qui refont des orchestrations avec les titres de Laurie, en fait.
Amateurs ou pas, parce que c'est vrai que tu disais, ta meilleure amie a été. Elle a été reprise par Pomme et Safia, et c'est une version qui est juste magnifique.
On vous concerte dans ces cas-là, on vous demande?
Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin.
Et vous découvrez ça, ou elle vous l'envoie?
Non, en fait, Pomme, elle m'a fait une surprise de dingue. Elle m'avait invitée à son Trianon il y a quelques années, c'était avant le Covid et tout. Et elle me dit, je suis en concert et tout ça, viens me voir. Et on ne se connaissait pas du tout, j'adorais cette artiste. Et donc, je vais la voir avec une copine. Et puis donc là, il y a Safia qui fait la première partie. Et Pomme arrive sur scène, elle déchire. Enfin, franchement, j'adore. Et d'un coup, il y a Safia qui revient avec la guitare. Et puis là, je les vois toutes les deux un peu
tremblantes.
Et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elles font, bon alors voilà, là on va chanter une chanson, mais on est un peu stressé parce que c'est une chanson qui a bercé notre enfance, mais la chanteuse, elle est dans la salle et tout. Et là, je fais, non, quand même pas. Après, je regarde autour de moi, il y a peut-être d'autres chanteuses.
Il y a Chantal.
Et donc, elles commencent à faire les petits accords et tout ça, et elles ont fait ce titre-là sur scène.
Ça doit être fou.
Magique.
Donc, si vous pensiez venir incognito à un concert, c'est foutu.
Voilà.
Jamais tranquille.
C'est un beau cadeau.
Il y a une collab comme ça, rêver quelqu'un, un message. Allez, on ne sait jamais.
Oh là là, j'ai déjà fait tellement de... Ouais, j'ai eu la chance de faire un duo avec Johnny.
C'est vrai?
Ouais. Et donc, ça, déjà, voilà.
Ouais,
je peux m'arrêter.
C'était quelle chanson, sur quel titre?
Je te promets.
Ah waouh, en plus.
Ouais, pour une émission de télé.
Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est difficile de dépasser Johnny, là.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Vraiment personne. Dans la jeune génération, c'est pareil. Alors, il y a
Ouais, mais après,
2.
Je vais spoiler les volumes 2. Alors, voilà.
Genre 2, volume 2. Avec des filles en
des
vue,
filles,
des garçons.
Garçons.
Elle ne nous dira absolument rien.
Non.
Raffarin.
Toute seule qu'on va attendre avec impatience sur le volume 2, de toute façon, parce que si c'est pas sur le volume 2, il va y avoir un scandale.
Exclu, je vous dis, toute seule sera sur le volume 2.
Ah oui, ouais. Mais ça, c'est pas une exclu. L'exclu, c'est avec
toi. Oh, je pensais que ça se passerait
non,
comme ça.
Non, on peut pas, nous berner comme ça, Laurie. Hyper Laurie, volume 1, bientôt le volume 2. Et tout de suite, dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau.
Je ne sais pas si c'est la déformation professionnelle ou une dépression latente, mais il n'y a pas grand-chose qui me fait rire. En fait, quand je suis sur scène, je déteste voir des gens qui rient pas, mais quand je suis dans le public, je suis ce type de personne-là. Là, par exemple, autour de la table, on a Fanny et Jérémy qui n'ont pas de chronique, qui sont venus pour l'ambiance. Et ben moi, jamais on a proposé de venir pour l'ambiance. Même si toute l'équipe était morte, un TGV de la tournée des humoristes France Inter qui déraille et se retourne, on m'appellerait pas moi. Déjà, il aurait fallu que je rate ce TGV, ce qui est impossible, parce que je suis psychorigide. J'arrive 14 heures avant le départ, donc je serais décédé aussi. Ça évite les délires à la destination finale avec la mort qui ensuite te court après. Tu bouffes des petits pois, ils viennent s'agglutiner dans ta trachée, tu étouffes après avoir crié une mort végane. Big up à Hugo Clément. En fait, sur l'échelle du fun, je me situe entre le croque-mort dans Lucky Luke et Jennifer Aniston le jour où elle a appris la disparition de Matthew Perry. Ce qui fait que les trucs qui vous font marrer sur internet, en général, moi ça me déprime. La seule fois où j'ai pensé au suicide, c'est en regardant un dessin d'humour sur le compte Insta de Michel Denisot. Mais il y a une exception. Ça fait 8 jours que je me marre en regardant en boucle la vidéo de ce couple d'automobilistes qui refuse de soumettre à un contrôle d'identité et qui crie non, on ne contracte pas à des flics qui comprennent pas du tout ce qui se passe. Parce que c'est le problème avec internet, comme on est tous sur des pages différentes à gober des idioties qui sont pas les mêmes, on n'arrive plus à communiquer. Donc là on voit en vidéo ce couple qui s'est filmé, c'est comme du porno amateur mais habillé sans sexe quoi. Ils font partie du mouvement des citoyens souverains, une sorte de demi-secte américaine pour personnes en déshérence, qui dit en fait que les lois n'ont aucune valeur parce que les États sont des entreprises privées et qu'en tant qu'être vivant, on n'a pas à contracter avec une boîte privée. Je peux comprendre, je déteste le secteur privé. Je me suis d'ailleurs exprimé là-dessus sur un groupe WhatsApp avec mon iPhone quand j'étais chez Burger King. Hein, je buvais un Coca Zéro bien frais parce que j'avais trop chaud dans mon pull des KKS. Le conducteur donc dit aux policiers « Je n'appartiens plus à l'entreprise République Française qui est une société depuis 1947. » Ce qui fait que l'autre, qui était plutôt parti sur un contrôle des papiers, se dit « Voilà un client pour l'alcotest. Hein, » il réclame le permis. Le type répond « Non, je ne contracte pas avec vous. » Sa femme à côté crie aussi « On ne contracte pas. » Comme si la formule allait faire fuir la police. D'accord, vous ne contractez pas. C'est noté. Au revoir. Ah, mais enfin, mais rien ne fait fuir la police. Ces gens parfois interviennent dans des bagarres entre gitans. Donc c'est pas en disant on ne contracte pas qu'ils vont renoncer. Moi, quand je me fais arrêter, je la joue fine. Je leur dis vous savez pas qui je suis. Ils répondent non. Ce qui fait que je leur dis ok, bon bah voilà mon permis. Hein, ensuite, je leur dis je connais Paul Mirabel. Ils adorent. Hein, tout le monde aime Paul. Et ils me laissent partir en échange d'un de ses cheveux que je collecte ici sur la moquette quand il vient. J'en ai 4000. Alors le mouvement des citoyens souverains, je maîtrise pas trop, mais en gros, quand on est dedans, on appartient à une entité autre. Hein, d'ailleurs, sur leur site, on peut acheter une carte Liberté, 80 euros, hein, qui dit qu'en tant qu'être vivant, vous ne contractez pas avec l'entreprise France, mais qui a la valeur symbolique d'une carte d'adhérent au club des Castors Juniors. Hein, donc, quand vous la montrez lors d'un contrôle de flics, les types se raidissent, puisque gérer des gens ivres, c'est une chose, mais si même les personnes sobres partent en sucette, être flic, ça va devenir une expérience psychédélique plus intense qu'Alice au Pays des Merveilles, Luce ou LSD. D'autant que là, on a quoi ? Enfin, finalement, un couple qui fait sécession. Si moi, demain, je décide que mon badge France Inter devient mon identité en tant qu'être vivant et qu'au policier, je me mets à crier par la toute-puissance de ce qui reste de la gauche française. Je ne contracte pas avec la République. Ce que j'attends de la République, c'est qu'elle mette un taquet pour que je revienne aux fondamentaux de l'équilibre psychologique. Là, on croit tellement plus au collectif que chacun se crée son petit monde dans sa tête. Voilà, monsieur l'agent m'en passe de la piscine. C'est ce qui me définit puisque j'y vais 3 fois la semaine. Et comme avec les algorithmes, on voit plus que des contenus de ce genre-là, on finit dans un pédiluve avec des professionnels de l'eau, Florian Manoudou
ou François Hollande qui a coulé le PS. Et on attend l'arrivée du psychiatre. Mais franchement, la vidéo de ce couple de citoyens souverains m'a fait rire et m'attriste en même temps, comme les blagues de Woody Allen sur le nazisme dans ses vieux films. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo à la fin, bon, l'un des policiers qui est arrivé au bout du bout de sa patience, hein, parce qu'il a devant lui des gens qui ont fermé leur véhicule de l'intérieur et qui hurlent « je ne contracte pas ». On dirait des personnes atteintes de colique qui renoncent à se battre avec la nature et réalisent qu'ils n'arriveront pas à temps au WC de la prochaine aire de repos. Ce policier donc brise les vitres du véhicule, agrippe le conducteur qui hurle « vous n'avez pas le droit » puisqu'il se dit « un mec du privé ose s'en prendre à moi, entité vivante libre ». Ensuite, ce même conducteur donc a fait des lives sur les réseaux sociaux. Il est traité en héros par d'autres citoyens souverains sur le chat. Alors pas des millions bien sûr, il y en a moins que de fans de Snoopy chez Miaou Magazine. Mais ça monte, ça monte, ça monte. Aux États-Unis, le mouvement des citoyens souverains inquiète même les autorités. Forcément, si à terme la moitié de la population brandit au moment de voter la carte Toys R Us des gosses en disant Joe Biden rien à foutre, il est dans le privé depuis 1890. Bon, il va y avoir un petit souci. Ouais, ouais. En fait, Internet, ça nous a retourné la tête. On est là chacun dans sa réalité, sa vérité, à croire à des choses toujours plus dingues. En fait, le seul truc qu'on fait encore collectivement, franchement, c'est aller dans le mur.
Bravo, Tanguy Pasturon. Tanguy Pasturon, on te retrouve sur scène les 7 et 8 juin, ce sera à Nice. Et puis à ton roman en librairie Navarre, aux éditions Fayard aussi. Et merci. J'ai envie de te dire, Tanguy, pour te réconforter.
La positive attitude.
J'ai mis du temps à y venir, mais avec l'âge, j'y viens de plus en plus.
La positive attitude, il n'y a que ça, il n'y a que ça à se dire. On continue de parler d'Hyper Laurie volume 1. Laurie, il y a plein d'autres choses aussi dans votre actualité parce qu'on a parlé des musiques, du volume 2 qui sort. Et puis, on a un peu moins parlé de Laurie Pester en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice et réalisatrice de fiction et de documentaires.
Oui, alors les documentaires, c'était pas moi qui les ai réalisés.
Co-réalisés, vite fait.
Vraiment, je sais pas.
Alors, justement,
c'est pas moi.
Pour les documentaires, c'est sur RMC. C'était une collection.
C'est passé sur RMC. C'était des documentaires sur la santé des femmes. Mm-hmm. Et en fait, on en a fait un sur le postpartum et un autre sur le problème des règles. Et voilà, et ça a été deux documentaires très sympas. Je suis allée voir des femmes chez elles. Elles m'ont raconté un petit peu leurs soucis, leurs problèmes, leurs douleurs. Ouais. Et je suis allée voir des professionnels de santé qui m'ont expliqué le pourquoi, du comment de ces douleurs. Et surtout, on voulait donner des solutions.
C'est ça.
Et puis de l'espoir et dire à ces femmes que voilà qu'elles ne sont pas toutes seules. Et non, c'était vraiment très 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 intéressant.
Et puis vous avez déjà par le passé pris la parole. On a parlé de l'endométriose, mais aussi de la congélation des ovocytes.
Ah oui.
Hein, difficile.
Un autre combat.
C'est un autre combat, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut congeler ses ovocytes, il faut aller à l'étranger.
Non, ça y est, la loi.
En France. Mais ouais.
Alors, à l'époque.
Dans certains cas ?
Oui,
il y a un âge ?
Non, maintenant, ça y est. En fait, moi, quand je l'ai fait, c'était en 2017.
Oui.
J'ai été obligée d'aller à l'étranger.
Oui.
Parce qu'on.
Angleterre ou Espagne, généralement,
ouais,
c'est ça.
Je suis allée en Espagne.
Oui.
Parce qu'on m'a dit, OK, bon, t'es atteinte d'endométriose, t'es plus toute jeune. Merci, c'est sympa. et t'es célibataire, surtout à l'époque. Ça serait bien d'aller congeler tes ovocytes. Je dis, OK, super, pas de problème, on y va, go.
En voiture.
Demain ? Ah, mais non, en fait, là, tu peux pas le faire en France. Ah, pourquoi ? Je suis quand même atteinte d'endométriose. Oui, mais en fait, les nodules n'ont pas touché tes ovaires, ou enfin vraiment les organes importants pour... Je fais OK, d'accord, mais et les femmes qui ne sont pas, enfin qui n'ont pas des maladies, non, en fait, elles peuvent pas. D'accord, donc je vais en Espagne, je fais tout ce qu'il faut.
Donc il faut avoir un peu d'argent déjà.
Il faut avoir un peu d'argent, un planning qui te le permet.
Le permet, bien sûr.
C'est quand même assez compliqué, c'est des piqûres quotidiennes pendant 12 jours et tout. Et là je me dis, mais en fait c'est pas normal quoi. Les hommes peuvent aller congeler leurs spermatozoïdes avec une simple ordonnance en France, et les femmes non, allez vous faire voir. Et donc j'ai poussé un petit coup de gueule. Et j'ai écrit une lettre ouverte, c'était sur le Huffington Post. J'ai fait une petite lettre au président en disant, voilà, c'est pas normal. Et après ça, j'ai été reçue par la ministre de la Santé à l'époque.
Vous avez été entendue ?
Oui, la conseillère aussi, la conseillère santé du président. Et on a longuement parlé, elle avait envie de faire bouger les choses. Mais à un moment donné, elle me dit, mais on a peur aussi que ça devienne une mode. Alors, en ce moment, tout le monde me dit l'endométriose, c'est une maladie à la mode, la congélation. J'ai dit, mais vous êtes.
Juste qu'on en parle, quoi.
Ouais, j'ai dit, mais vous êtes médecin, vous savez que les jeunes filles ne vont pas faire ça pour être à la mode, parce que c'est quand même 12, des piqûres pendant 12 jours quotidiennes. Faut être motivé. Et voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on peut congeler ses ovocytes en France, et une femme même qui n'est pas malade peut congeler ses ovocytes. Le seul petit problème, c'est que comme ça.
Il y a une barrière d'âge, non ? Il n'y a pas une limite d'âge.
Oui, il y a une limite d'âge, mais c'est surtout que.
Ah oui.
C'est un peu c'est un peu les embouteillages parce que tout le monde maintenant veut le faire. Donc maintenant, il y a une attente de un an et demi.
Plus compliqué encore à mener. Donc il y a ces combats-là, il y a ces documentaires sur RMC. Il y a vous en tant que réalisatrice.
Oui.
Bah oui. C'est super, vous faites un petit, une petite bouche comme ça.
Non, genre. J'adore. J'aime beaucoup. Je sais pas si je préfère être derrière que devant.
Voilà, mais... c'est ça. Parce que vous jouez dans Demain nous appartient et vous réalisez aussi certains numéros, certains épisodes.
Ouais.
Ça a commencé comment par
ça a commencé par des potes comédiens qui me disaient sur le tournage qui me disaient mais arrête de donner tes bonnes idées au réal, va voir la prod et dis-leur que tu veux réaliser. Et je lui dis mais oui, mais j'ai pour l'instant j'ai juste réalisé des clips vidéo pour des jeunes chanteuses donc personne va me laisser la caméra mais vas-y et tout. Et puis bon, c'était resté un petit peu dans le coin de ma tête, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la mise en scène. C'est moi qui fais toutes les mises en scène de mes concerts, de mes spectacles. Ouais. Et là, bon. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te fasses une petite carte de visite. Et il y a 2 ans, donc j'ai produit, écrit et réalisé mon premier court-métrage. Et je l'ai envoyé aux productions. Et là, donc le producteur de Demain nous appartient.
C'est le même mode opératoire que quand vous avez voulu jouer la comédie. Hein.
Exactement. Exactement.
Qu'on se le dise. Voilà.
Je veux faire quelque chose, j'y vais à fond. Et là, il voit le court-métrage, il fait mais c'est super génial, vraiment. Si tu veux réaliser, viens chez nous. Et c'est ce que je voulais, parce que je savais que Demain nous appartient m'ouvrirait plus les portes qu'une autre production, parce que je connais les décors, je connais les comédiens, je connais l'équipe, je connais le rythme, je connaissais tout ça. Et voilà, et donc j'ai réalisé quelques épisodes donc l'année dernière. Ensuite, j'ai réalisé le clip de Héloïse, la chanteuse, Place pour ta peine.
Ouais.
Et voilà, et j'ai d'autres projets aussi à venir.
De long métrage ?
Non, pas long métrage, mais
série,
de fiction. Ouais.
Fiction, d'accord, ok. Voilà. Et dans le jeu, encore d'autres.
Et dans le jeu, alors j'ai tourné l'année dernière dans Astrid et Raphaël.
Oui.
Et ça va être diffusé cette année, je pense.
Donc là, c'est sur France 2.
Ouais,
quand tu me dis infidélité à TF1, voilà. Et le théâtre, on a parlé tout à l'heure de Pygmalion rapidement, cette expérience sur scène.
C'était génial.
Oui.
C'était génial, et surtout jouer Elisa Doolittle, quel rôle exceptionnel. Là, je viens tout juste de refuser une pièce de théâtre qui est juste topissime, mais le planning est déjà très chargé, et en fait, je me vois pas tous les soirs ne pas voir ma fille. C'est un peu le voilà. C'est je vais aller chercher à l'école. Il y a le bain, il y a le manger, il y a l'histoire, il y a ceci cela, et ça c'est nos petits moments à nous. Et c'est,
vous n'êtes pas prête à renoncer à ça quand elle sera plus grande, quoi.
Ouais, exactement.
Voilà, quand elle aura pas besoin de bain ni d'histoire.
Exactement.
Elle sera tranquille.
Mais le plus longtemps possible quand même.
Mais bien sûr, mais non, en fait ça va pas se passer comme ça. Vous le savez très très bien. Pardon, je vais pas vous casser le moral. Ah non, je vais vous le remonter tout de suite avec Tristan Lopin. Tristan.
J'ai monté les marches de Cannes pour la première fois de ma vie. J'y suis allé pour présenter une série dans laquelle je joue qui sort bientôt. Gros projet, mais bon, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, on n'est pas ici pour parler de moi. Bien que ce soit une activité que je trouve assez satisfaisante de manière générale, et que si on y réfléchit bien, depuis le début de l'émission, on a quand même beaucoup parlé de vous, Laurie. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis invité, waouh, ok, le melon de ouf. Bref, j'en étais où ? On n'était pas là pour parler de moi, mais je m'apprêtais à le faire.
Oui.
Cannes, donc, logé à l'hôtel Majestic, je m'installe dans ma chambre face à la mer. Est-ce que j'ai résisté à la tentation de me passer un petit coup de Calogero et Passy ? Pas du tout. Ça fait plaisir, c'est cadeau. À Cannes, on se fait plaisir, on est dans l'excès, dans le rêve. Il y a même la réception qui m'a appelé juste après mon arrivée pour me prévenir que ma maquilleuse et mon coiffeur personnel étaient arrivés. Et me demander s'ils pouvaient les faire monter directement dans ma chambre. Un coiffeur personnel pour moi. Si on n'est pas dans l'excès et la vente de rêves excessifs, je sais pas où on est. Et le pire, c'est qu'en arrivant dans ma chambre, j'ai prévenu le coiffeur qu'il aurait pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, je veux dire, bosser sur moi pour un coiffeur, c'est comme demander à Gabriel Matzneff de faire un rencard avec une personne majeure ou à Marine Le Pen et Mélenchon de faire de la politique sans le conseiller.
concept de populisme. Forcément, c'est déceptif, quoi. Mais hyper optimiste, le coiffeur qui me répond, vous savez, on est à Cannes, on peut toujours faire quelque chose. Et là, puisque rien ne peut vraiment se passer bien avec moi, que le séjour ne pouvait pas n'être que luxe, glamour et volupté, un pigeon est entré dans ma chambre par la fenêtre que j'avais laissée ouverte pour profiter un peu de l'air marin. Oh, wow. Panique, que dis-je, hystérie générale. Moi qui cours dans toute la chambre avec mes bigoudis que le coiffeur avait posé sur ma tête pour rebooster un peu mon ego, la maquilleuse qui appelle la réception pour que quelqu'un vienne chasser le volatile, qui lui, complètement stressé par la situation, se met à chier littéralement partout. J'étais arrivé depuis 14 minutes. Et je préfère vous dire qu'il n'était pas frais, le pigeon, je vous jure. Il avait une tronche fripée, l'œil hagard, le plumage délavé par le soleil, enfin une canoise, mais en descente. Quoi. Bref, on a fini par monter les marches. Grosse sensation quand même. Tous ces gens qui attendent qu'on s'approche d'eux pour une photo, un autographe. Des gens qui ne savent pas toujours très bien qui on est, d'ailleurs. Puisque j'ai été à plusieurs reprises appelé Tristan Lopez. Voilà. Donc j'ai officiellement une tête de glacier qui vend aussi des beignets et des chouchous en bord de plage l'été. En bord de plage, pardon. Pourtant, j'ai tout prévu pour avoir un look de star. Le tapis rouge à Cannes a quand même été foulé par DiCaprio, Kidman et puis Afida Turner aussi. Donc bon. Différentes maisons m'avaient prêté des tenues pour les différents photocos. Je me suis dit, il faut quand même se faire plaisir. C'est Cannes, quoi. J'avais même pensé à une petite robe fendue avec un dos nu très échancré qui laisserait apercevoir ma chute de rein que j'avais préalablement fait épiler. Donc j'étais quand même vraiment organisé. Seul gros point noir de la soirée pour le dîner. Ils avaient mis en dessert un fondant au chocolat avec une boule de glace vanille. Bon, j'adore, excellent choix. Hein. Sauf que j'enfonce ma cuillère dans le fondant pour faire couler le fondant puisque c'est quand même le principe du gâteau, quoi. Et là, le drame, il était cuit.
Voilà.
Non, mais c'est pas possible, en fait, quoi. Et le serveur qui me demande avec beaucoup d'audace, tout se passe bien, monsieur? Bah non, en fait, vous avez fait pire que tous mes ex. C'est-à-dire qu'on s'est même pas encore parlé. Vous avez réussi à foirer la seule promesse que vous m'avez faite. Sérieusement, on est déjà en pleine guerre, le dérèglement climatique, Natacha Saint-Pierre et Inetrek qui se foutent sur la gueule, et maintenant les fondants au chocolat trop cuits, c'est quoi la suite en fait? Je vous préviens, il faut vraiment que tout ça rentre dans l'ordre, parce que moi je suis à deux doigts de changer de patronyme et d'ouvrir un camion de glace sur la côte et surtout...
Face à la mer. Bravo Tristan Lopin. Tristan Lopin, vraiment, ce soir à Lyon. Et le 24 avril, tu seras à Toulouse. Yes. Voilà. Il est bientôt temps de se séparer. Je sais, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Oh, on a des excuses à présenter, Jérémy Crédville.
Oui, c'est vrai. Désolé pour tous les auditeurs historiques de France Inter qui, ce matin, n'ont pas forcément reconnu leur émission et leur radio. Alors, c'est pas fini, car à la demande de Lisa Delmoitier, on va écouter ça. Là, on est chez nous. Désolé aussi pour Laurie qui ce matin a vécu une émission particulièrement compliquée, hein, exposée à la critique radicale, malmenée par des questions insidieuses, jetée en peinture avec chroniqueurs extrêmement incisifs. Ouais. Franchement, Laurie ne méritait pas autant de méchanceté. Et désolé enfin pour Daniel Morin, Nagui et les retraités de la bande originale qui m'ont appelé à la pause pour réclamer une spéciale Maurice Chevalier pour leur retour. Alors on va bosser dessus, mais on vous promet rien.
Bravo. Et vous savez quoi? Est-ce que vous chantez avec nous? Merci beaucoup, Laurie.
Avec plaisir.
Laurie Pester, c'était une joie. Je rappelle, vos chansons, Hyper Volume 1 bientôt, Hyper Volume 2 bientôt, un album dans les magasins, dans les bacs. Laurie Pester, revivre aussi ce récit aux éditions Robert Laffont. C'était une joie de vous avoir. Merci d'avoir accepté, plaisir. Laurie. On vous court après depuis un petit moment. Et merci à toute la bande qui a joué le jeu encore plus aujourd'hui. On se retrouve non pas dès la semaine prochaine, il y a des rediffusions la semaine prochaine. On va reprendre avec Maurice Sacco, Caroline Vigneault, David Fonquinos, Manu Payette, Philippe Besson. On va se reposer, nous, pendant une petite semaine. On vous revient frais à la rentrée, ne vous inquiétez pas.
Calme-toi.
Merci beaucoup. On vous embrasse. Belle journée sur Inter.